Bonjour à tous, Liliane sur Radio Grand Ciel pour l'émission Figure de l'Histoire.
L'incendie de la maison du comte de Guitaut. Vous saurez, ma petite, qu'avant-hier, mercredi, après être revenue de chez madame de Coulanges, où nous faisons nos paquets les jours d'ordinaire, je songeais à me coucher. Cela n'est pas extraordinaire. Mais ce qu'il est beaucoup, c'est qu'à 3 heures après minuit, j'entendis crier au voleur, au feu, et ces cris si près de moi et si redoublés que je ne doutais point que ce fût ici. Je crus même entendre qu'on parlait de ma petite fille. Je ne doutais pas qu'elle ne fût brûlée. Je me levai dans cette crainte sans lumière avec un tremblement qui m'empêchait quasi de me soutenir. Je courus à son appartement, qui est le vôtre. Je trouvai tout dans une grande tranquillité. Mais je vis la maison de Guitaut tout en feu. Les flammes passaient par-dessus la maison de madame de Vauvineux. On voyait dans nos cours, et surtout chez monsieur de Guitaut, une clarté qui faisait horreur. C'était des cris, c'était une confusion, c'était des bruits épouvantables, des poutres et des solives qui tombaient. Je fis ouvrir ma porte, j'envoyai mes gens au secours. Monsieur de Guitaut m'envoya une cassette de ce qu'il a de plus précieux. Je la mis dans mon cabinet, et puis je voulus aller dans la rue pour bâiller comme les autres. J'y trouvai monsieur et madame de Guitaut quasi nus. Madame de Vauvineux, l'ambassadeur de Venise, tous ces gens, la petite Vauvineux qu'on portait tout endormie chez l'ambassadeur, plusieurs meubles et vaisselles d'argent qu'on sauvait chez lui. Madame de Vauvineux faisait démeubler. Pour moi, j'étais comme dans une île, mais j'avais grand pitié de mes pauvres voisins. Madame Guéton et son frère donnaient de très bons conseils. Nous étions tous dans la consternation. Le feu était si allumé qu'on osait en approcher, et l'on espérait la fin de cet embrasement qu'avec la fin de la maison de ce pauvre Guitaut. Il faisait pitié. Il voulait aller sauver sa mère, qui brûlait au 3e étage. Sa femme s'attachait à lui, qu'il retenait avec violence. Il était entre la douleur de ne pas secourir sa mère et la crainte de blesser sa femme. Il faisait pitié. Enfin, il me pria de tenir sa femme. Je le fis. Il trouva que sa mère avait passé au travers de la flamme et qu'elle était sauvée. Il voulut aller retirer quelques papiers et ne put approcher du lieu où ils étaient. Enfin, il revint à nous dans cette rue où j'avais fait asseoir sa femme. Des capucins, pleins de charité et d'adresse, travaillèrent si bien qu'ils coupèrent le feu. On jeta de l'eau sur les restes de l'embrasement et enfin, le combat finit faute de combattants. C'est-à-dire après que le premier et second étage de l'antichambre et de la petite chambre et du cabinet qui sont à main droite du salon eurent été entièrement consumés. On appela bonheur ce qui restait de la maison, quoi qu'il y ait pour le pauvre Guitaut, pour plus de 10 000 écus de perte, car on compte de faire rétablir cet appartement qui était peint et doré. Vous m'allez demander comment le feu s'était mis à cette maison. On n'en sait rien. Il n'y en avait point dans l'appartement où il a pris. Mais si on avait pu rire dans une si triste occasion, quel portrait n'aurait-on point fait de l'état où nous étions tous? Guiteau était nu, en chemise, avec des chausses. Madame de Guiteau était nue jambe et avait perdu une de ses mules de chambre. Madame de Vauvineux était en petite jupe, sans robe de chambre. Tous les valets, tous les voisins, en bonnet de nuit. L'ambassadeur était en robe de chambre et en perruque et conserva fort bien la gravité de la sérénissime.
Nous avons laissé la marquise bien soucieuse. À 20 ans, sa fille Françoise n'est toujours pas fiancée. Et voilà que son fils de 18 ans veut partir à la guerre. Il en a parlé, il n'a pas osé en parler à sa mère, il en a parlé au maréchal de Turenne, au cardinal de Retz, et c'est Madame de La Rochefoucauld aussi qui le sait et qui a mis sa mère devant le fait accompli. Alors où est-ce qu'il veut aller ? Eh bien, les musulmans ne veulent pas que les chrétiens aient en Crète une forteresse. Le sultan veut assiéger cette forteresse, les puissances catholiques interviennent et la France prête 3 navires. Alors voilà où Charles veut partir. La marquise est complètement catastrophée, car on connaît la cruauté des Turcs, les maladies mortelles des pays chauds. Elle continue cependant à chercher un mari pour sa fille. En 1676, elle a des vues sur le comte de Grignan. Il vient de perdre sa femme. C'est la seconde fois que ça se produit. Sa première femme, petite fille de la marquise de Rambouillet, est morte en couche. François d'Adhémar de Montaigne, c'est tout son nom entier ça, hein, ben, il voudrait bien un fils. Or, il a 2 filles de ses 2 femmes successives. Il cherche donc à se remarier. Eh bien, la future, elle fera bien ne pas être superstitieuse, parce que quand même, ça en fait 2 qui meurent. Il a 35 ans. Il est brun, il est sec, il n'est pas très beau, mais il a du charme. On le pense riche. Il a hérité de sa grand-mère d'Ornano et puis de son père. Alors, en revanche, sa noblesse remonte au 7e siècle. Alors ça, Madame de Sévigné, vraiment, ça l'éblouit littéralement. Il a 4 ancêtres qui ont fait la première croisade. Et Grignan fait approcher la marquise. Ouais, à l'époque, on ne se déclarait pas comme ça de but en blanc. Pressée de conclure, elle réunit la dot de Françoise et elle lui donne 200 000 livres. Ça ne vous dit rien, mais pour l'époque, c'était considérable. Mais elle ne les a pas, les 200 000 livres. Donc, elle les emprunte. Les 2 futurs se rencontrent. Eh bien, Mademoiselle de Sévigné plaît beaucoup à Monsieur de Grignan. Et Monsieur de Grignan plaît beaucoup à Mademoiselle de Sévigné, qui jusque-là avait repoussé tout le monde. Il a 13 ans de plus qu'elle, et ça ne paraît pas du tout la troubler, parce que finalement, elle n'a pas eu de présence masculine sécurisante à la maison. Cet homme mûr et qui est extrêmement attentif, et en plus, c'est quelqu'un de bon. Ça va lui tenir aussi bien lieu de père que de mari. Alors Françoise est donc fiancée officiellement. Le contrat de mariage est signé le 27 janvier 1669. Le 29 janvier, la cérémonie religieuse a lieu à l'église Saint-Nicolas-des-Champs. Il est convenu que la marquise va vivre avec le jeune couple. Aïe, aïe, aïe. Et voilà que Charles revient de Crète, sain et sauf. Alors, Madame de Sévigné s'installe, pense-t-elle, dans un bonheur sans nuages. À Pâques, Françoise rayonne, elle attend son premier enfant. L'automne arrive. Patatras pour la marquise, François de Grignan reçoit une promotion très flatteuse. Il est nommé lieutenant général du Languedoc, c'est-à-dire qu'il représente le roi dans une région qui, justement, est la sienne. Et... eh bien, il faut y habiter. Alors, bien sûr, il emmène sa femme, si bien que le ciel tombe sur la tête de la belle-mère. Celle-ci n'a plus qu'une obsession, empêcher ou au moins retarder le départ. Quant à Françoise, elle est déchirée entre l'amour qu'elle porte à son époux et son attachement à sa mère. Le 4 novembre, un frère de son mari, qui s'appelle Charles-Philippe, fait une chute de cheval absolument spectaculaire sous les fenêtres de Françoise. Eh bien, elle a tellement peur qu'elle fait une fausse couche. Et c'est un fils qui meurt 4 heures plus tard. Alors, les Grignons restent. Déjà parce qu'il faut qu'elle se remette. Et ensuite, François doit vendre sa charge précédente pour pouvoir partir dans le Languedoc. Nous sommes début 1670. Françoise est à nouveau enceinte. Et la marquise, comme toujours, veut retenir sa fille jusqu'à l'accouchement. Finalement, le 22 avril, François part seul en Provence. Sa femme en a une peine infinie, si bien qu'elle montre un air d'affliction permanent et un dédain du monde extérieur. Toute la journée, elle est en négligée, elle écrit de longues lettres à son mari, et quand celui-ci répond, la marquise veut lire et même mettre son grain de sel, si bien que Françoise est complètement furibonde. Madame de Sévigné n'a réussi qu'à monter sa fille contre elle. Novembre, Françoise accouche d'une fille, Marie-Blanche. Elle se remet et ne songe qu'à aller retrouver son mari. Et le départ est fixé alors au 10 janvier 1671. C'est alors que la marquise écrit sa fameuse lettre, la chose la plus surprenante, la plus merveilleuse, la plus miraculeuse, etc., etc., concernant la grande mademoiselle, la cousine du roi dont je vous ai raconté la vie, et monsieur de Lauzun. Elle écrit aussi à son gendre que le temps est épouvantable, qu'il fait froid, que les rivières sont en crue, et donc ça serait quand même bien mieux que Françoise ne voyage pas. Les aspirations de Madame de Grignan est à son comble, elle préfère les chemins transformés en rivières à cette mer accaparante, et elle fixe son départ au 4 février. Le jour arrive. Marie serre sa fille dans ses bras avec des transports de désespoir. Voilà sa fille partie. Alors du coup, Marie part entendre la messe aux Capucins. Et Françoise lui a laissé la petite Marie-Blanche. Tout en roulant vers la Provence, elle prend conscience finalement de la séparation et de son amour pour sa mère. Et elle regrette les emportements qu'elle a eus. Si bien qu'à l'étape, elle lui écrit. La marquise tremble en voyant la lettre, mais c'est une lettre tout à fait charmante. Les malentendus sont dissipés, elles vont s'écrire. C'est par Françoise, finalement, que Marie va devenir épistolière. Madame de Sévigné, en fait, n'a jamais pensé à devenir écrivain. Et elle-même, elle dit de son style qu'il est bien médiocre, et que suffisamment médiocre pour qu'il ne soit pas soumis au public. Pour elle, l'écrit ne saurait remplacer la parole. Elle raffole des conversations. Et pourtant, elle ne pourra plus vivre sans écrire, parce qu'elle écrit non seulement à sa fille, mais à des tas d'amis. C'est le seul lien qui lui reste avec Françoise. Par la pensée, elle sera toujours avec elle et lui racontera ce qui peut l'amuser ou ce qui peut l'instruire. Nous allons faire une première pause musicale.
La mort de Vatel. Il est dimanche 26 avril. Cette lettre ne partira que mercredi, mais ceci n'est pas une lettre, c'est une relation que vient de me faire Moreuil à votre intention de ce qui s'est passé à Chantilly touchant Vatel. Je vous écrivis vendredi qu'il s'était poignardé. Voici l'affaire en détail. Le roi arriva jeudi au soir. La chasse, les lanternes, le clair de lune, la promenade, la collation dans un lieu tapissé de jonquilles, tout cela fut à souhait. On soupa. Il y eut quelques tables où le rôti manqua, à cause de plusieurs dîners où l'on ne s'était point attendu. Cela saisit Vatel. Il dit plusieurs fois « Je suis perdu d'honneur, voici un affront que je ne supporterai pas ». Il dit à Gourville « La tête me tourne, il y a 12 nuits que je n'ai dormi, aidez-moi à donner des ordres ». Gourville le soulagea en ce qu'il put. Ce rôti qui avait manqué, non pas à la table du roi, mais au 25e, lui revenait toujours à la tête. Monsieur le prince alla jusque dans sa chambre et lui dit « Va-t-elle, tout va bien, rien n'était si beau que le souper du roi ». Il lui dit « Monseigneur, votre bonté m'achève. Je sais que le rôti a manqué à 2 tables. »« Point du tout, dit monsieur le prince, ne vous fâchez point, tout va bien. » La nuit vient. Le feu d'artifice ne réussit pas, il fut couvert d'un nuage. Il coûtait 16 000 francs. À 4 heures du matin, Vatel s'en va partout. Il trouve tout endormi. Il rencontre un petit pourvoyeur qui lui apportait seulement 2 charges de marée. Il lui demande « Est-ce là tout ?» Il lui dit « Oui, monsieur. » Il ne savait pas que Vatel avait envoyé à tous les ports de mer. Il attend quelque temps. Les autres pourvoyeurs ne viennent point. Sa tête s'échauffait. Il croit qu'il n'aura point d'autre marée. Il trouve Gourville et lui dit « Monsieur, je ne survivrai pas à cet affront-ci. J'ai de l'honneur et de la réputation à perdre. » Gourville se moqua de lui. Vatel monte à sa chambre, met son épée contre la porte et se la passe au travers du cœur. Mais ce ne fut qu'au 3e coup, car il s'en donna 2 qui n'étaient pas mortels. Il tombe mort. La marée, cependant, arrive de tous côtés. On cherche Vatel pour la distribuer. On va à sa chambre, on heurte, on enfonce la porte. On le trouve noyé dans son sang. On court à Monsieur le Prince, qui fut au désespoir. Monsieur le Duc pleura. C'était sur Vatel que roulait tout son voyage de Bourgogne. Monsieur le Prince le dit au roi fort tristement. On dit que c'était à force d'avoir de l'honneur en sa manière. On le loua fort, on loua et blâma son courage. Le roi dit qu'il y avait 5 ans qu'il retardait de venir à Chantilly, parce qu'il comprenait l'excès de cet embarras. Il dit à Monsieur le Prince qu'il ne devait avoir que 2 tables et ne se point charger du reste. Il jura qu'il ne souffrirait plus que Monsieur le Prince en usât ainsi. Mais c'était trop tard pour le pauvre Vatel. Cependant, Gourville tâche de réparer la perte de Vatel. Elle le fut. On dîna très bien, on fit collation, on soupa, on se promena, on joua, on fut à la chasse. Tout était parfumé de jonquilles, tout était enchanté.
Nous sommes toujours sur Radio Grand Ciel et je vous raconte la vie de la marquise de Sévigné. Le 23 février, Charles arrive de Nancy. Il est en pleine santé, donc sa mère ne s'inquiète pas pour lui. Elle a tort, car il commet bien des sottises. Quant à Françoise, son voyage se termine, son mari l'attend à Pont-Saint-Esprit. Vous vous rappelez que Françoise a laissé à sa mère la petite Marie-Blanche. Alors la reine demande à la marquise à qui elle ressemble cette petite Marie-Blanche. Et la marquise répond « À monsieur de Grignan ». « J'en suis fâchée, dit la reine. Elle aurait mieux fait de ressembler à sa mère ou à sa grand-mère. Si bien que la petite, qui a 5 ans, où est-ce qu'elle va partir? Au couvent. Et d'ailleurs, elle va prendre le voile à la visitation. Alors je vous ai dit que Charles faisait des bêtises. Eh bien, il a fait connaissance de Ninon de l'Enclos. Ninon de l'Enclos, elle a 53 ans et elle se met en tête de séduire le fils après avoir séduit le père, si vous vous souvenez. Elle est ravie d'humilier la marquise. Seulement, le fils n'est pas le père. Il a reçu une solide éducation catholique. Et puis, il commence à avoir peur d'être damné pour ses frasques. Si bien que la brave Ninon, elle en est pour ses frais. La marquise l'emmène alors, pas Ninon bien sûr, son fils, en Bretagne. Ça fait 5 ans qu'elle n'est pas allée au Rocher. Elle calcule qu'elle va y rester jusqu'en novembre, puis elle passera l'hiver à Paris et ensuite elle pense partir pour le Midi. C'est alors qu'elle n'est pas encore partie que se passe un événement qu'elle va écrire à sa fille. Vatel, le maître d'hôtel du prince de Condé, se suicide parce que la marée ne lui a pas apporté à temps les bourriches d'huîtres pour le dîner donné au roi. Madame de Sévigné a connu Vatel quand il servait le surintendant Fouquet. Et si elle ne peut rien faire pour Fouquet, elle s'est toujours souciée de ses anciens serviteurs et même elle les aide à l'occasion. Le 29 novembre, elle reçoit une lettre de sa fille. Cette dernière a mis au monde un garçon qu'on appelle Louis. Il est blond et il ressemble à sa mère. La marquise pense toujours partir en Provence et en attendant, le 8 avril, la guerre est déclarée contre les Pays-Bas. Au début, ce sont des victoires, puis viennent les premières pertes absolument effroyables. Charles, bien sûr, s'est engagé, une trêve intervient, ouf, elle va pouvoir partir en Provence. Elle ne part pas seule, l'abbé de Lamousse et l'abbé de Livry, Christophe de Coulanges, l'accompagnent, tout ça c'est la famille. Départ le 13 juillet 1672. On fait une petite halte en Bourgogne, où elle a quand même des avoirs, et en particulier un château. Son cousin n'est pas au logis, mais elle voit sa vieille tante qui est toujours aussi désagréable. À Lyon, la marquise s'arrête, elle est reçue chez l'intendant de la ville, et on poursuit le voyage en descendant le Rhône. Sa fille doit la rencontrer à Robinet. Eh bien, elle est là, et elle n'a pas bonne mine. Sa mère redoute une quatrième grossesse. En attendant, on visite le château. Et le château d'Aigrignan, c'est une maison absolument fabuleuse de style Renaissance. Seulement pour Madame de Sévigné, elle trouve qu'il manque des arbres. Elle se sentira toujours étrangère d'ailleurs à ce paysage. Les excursions qu'elle a envisagées en compagnie de sa fille tombent à l'eau. Vous avez deviné, Françoise est enceinte. Pour la marquise, c'est un désastre absolu. Elle qui pensait ramener sa fille à Paris. Alors, elle va rester jusqu'à l'accouchement. Et dès que François sera rétabli, elle se propose de la ramener à Paris. Alors, c'est un programme qui épouvante absolument la malheureuse Françoise. Elle ne pourra pas faire un pas ou descendre une marche sans être accablée des conseils de prudence de sa mère. Elle qui a appris à tenir son rang d'épouse du lieutenant général de Provence, à se comporter en adulte, la voilà réduite en quelques heures à l'état de fillette en tutelle. Alors, les querelles reprennent. Grignant entre les deux tente d'apaiser le tout, il lui arrive de rêver que sa belle-mère rentre à Paris. Et voilà que la marquise tombe malade. Marie se ronge pour sa fille enceinte, Françoise s'inquiète parce que sa mère est alitée, elles n'en sont toutes les deux que plus hargneuses. Alors Grignan, il a une idée. Les états de Languedoc ont lieu en novembre à Montpellier. Il va s'y rendre et il va emmener sa belle-mère en consultation, puisqu'elle est souffrante, car la faculté de médecine de Montpellier est extrêmement réputée. On met 4 jours pour rallier Montpellier. La marquise se rétablit. Alors elle visite la ville, elle revoit un ami, M. de Varde, elle va jusqu'à Marseille, elle est absolument enthousiasmée par la ville. Le 25 mars 1673, Madame de Grignan ressent les premières douleurs et l'accouchement se passe mal. Au bout de 48 heures, une cousine, Madame de Buon, lui envoie son propre médecin et le médecin sauve la mère, mais l'enfant, un fils, n'a que le temps d'être ondoyée avant de mourir. Madame de Sévigné a eu si peur qu'elle va emmener Françoise loin de son mari. Ce monstre a déjà tué 2 femmes, il n'en tuera pas une 3e. Elle refuse de comprendre que sa fille aime son mari. Elle estime que si le devoir d'un homme, c'est d'accepter de mourir au combat, celui des femmes, c'est d'accepter de mourir en couche. Tant que François voudra des enfants, elle lui donnera des enfants. François se remet, le printemps est absolument radieux. Madame de Sévigné fixe son retour à Paris au mois d'octobre avec Françoise. Le refus brutal de la jeune femme laisse absolument la mère sans voix. Elle la harcèle tout l'été pour la faire changer d'avis. Elle est tellement insistante qu'à la fin, Françoise se fâche. Ne comprend-elle pas que Mademoiselle de Sévigné n'existe plus, qu'elle se doit à son mari et à son fils? Et elle jette à la tête de sa mère tous ses anciens griefs. Nous allons faire une deuxième pause musicale. De Sévigné demande alors à sa fille de lui pardonner tout ça, parce qu'elle dit que tout ça c'est dû à son amour pour elle. Alors sa fille, qui ne souhaite pas se brouiller quand même avec sa mère, trouve quand même que 14 mois c'est assez. Elle lui promet qu'elle viendra la voir à Paris, mais dès qu'elle pourra. Le 5 octobre, la marquise reprend la route absolument sanglotante. En s'éloignant de sa fille, elle mesure ses erreurs et se dit qu'elle ne les renouvellera pas. Elle arrive à Paris toujours larmoyante. Toute sa famille et ses amis sont là. Et alors, elle va attendre les lettres de sa fille. 1674, Grignan a l'autorisation de venir à Paris. Le 28 janvier, Françoise annonce sa venue. Elle demande à sa mère de trouver un logement. La marquise veut que son fils habite chez elle. Sa fille arrive. Elle attend un cinquième enfant. Et curieusement, Madame de Sévigné ne semble pas si heureuse qu'elle l'espérait. Enfin, elle est atteinte d'un mal contre lequel on ne peut rien. Elle vieillit. Son fils a atteint la majorité légale de 25 ans. Alors la marquise est relevée de sa tutelle. Elle a tenu les comptes très scrupuleusement. Elle a tout épuré et n'a eu besoin de vendre qu'une seule terre, si bien que le solde des comptes est positif. Donc son fils va voler de ses propres ailes, sa fille est mère, elle est grand-mère, et elle se rend compte en regardant son miroir qu'elle vieillit. Alors elle ne voit qu'un remède, la marquise. Eh bien, elle veut se jeter dans la religion. Elle souffre des tas de petits maux. Alors Françoise est tout à fait déroutée de voir sa mère dans cet état, alors qu'elle était toujours débordante de vie et d'activité. Finalement, elle se remet, j'allais dire malgré les médecins. Le 11 août, Charles revient de la guerre, encore sain et sauf. Il a supporté sans broncher une fusillade mortelle, si bien qu'il revient entouré de l'admiration générale et une très légère blessure à la tête. Le cousin Roger lui écrit, ça redonne le moral à la marquise. Il lui dit qu'elle est toujours belle et séduisante, que Françoise accouchera facilement, que c'est là une chose heureuse et normale, donc il ne faut pas tenir rigueur à ce pauvre matou de Grignan. Le 9 septembre, Françoise met au monde une fille prénommée Françoise Pauline. Et voilà les ennuis qui arrivent du côté Grignan. Des ennuis financiers. De son premier mariage, François a deux filles. Il doit verser une pension annuelle. Et depuis 2 ans, eh bien, il ne peut plus. Et en plus, il doit verser les intérêts sur la part d'héritage de leur mère. Si bien que l'hiver se passe en consultation juridique, Françoise propose à ce moment-là de se porter caution. Si elle devient veuve, eh bien, elle sera complètement dépouillée. Sa famille pousse les hauts cris, elle tient bon et elle décide de repartir chez elle. Le départ est fixé à la mi-mai. Rentrée en Provence, Françoise, délivrée de l'amour excessif de sa mère, se fait tout à fait par écrit, complètement indulgente et accommodante. La marquise décide alors de partir au Rocher, en Bretagne. Alors bien lui en prend parce qu'à la mi-juillet, la Bretagne est en révolte. Je dis bien lui en prend parce que justement, elle décide de ne pas partir. Cette province, la Bretagne, elle vit de l'industrie textile. Ses clients, ce sont les Anglais. Or, par mesure de rétorsion, contre la politique protectionniste de Colbert, qui a honteusement avantagé le textile champenois, eh bien, les Anglais cessent brusquement les commandes aux Bretons. Et il faut ajouter 2 années consécutives de mauvaises moissons. En cette année 1675, les Bretons n'ont plus que leurs yeux pour pleurer. Alors cependant, il faut payer les impôts et de nouvelles taxes s'annoncent sur le papier timbré, la vaisselle d'étain. La vaisselle d'étain, c'est justement la vaisselle des pauvres. Et sur le tabac. Alors des émeutes éclatent à Rennes, à Nantes, à Saint-Malo. Et la région flambe complètement. La répression royale est absolument terrible. Fin juillet, la situation est assez rétablie pour que la marquise, finalement, parte. Mais cela l'éloignerait davantage de sa fille. Et puis Charles est reparti aux armées. Une nouvelle fait alors l'effet d'une bombe. Turenne est tuée. Marie l'écrit à son cousin Roger. Ce n'est pas que le trépas du grand homme la touche comme celui de l'intime, mais elle lui rappelle que l'on peut mourir à tout instant. Elle a une peur naturelle de la mort absolument amplifiée par le fait qu'elle voit en Dieu un Dieu sévère et qui punit les pécheurs. Marie s'admet fatiguée et se décide à préparer ses bagages pour la Bretagne. Elle s'attarde une semaine à la Visitation nantaise où Françoise Enfant a été quelques mois pensionnaire. Elle en parle avec ses anciennes éducatrices et elle s'installe au Rocher. Elle écrit à sa fille une nouvelle fois enceinte, qu'elle s'occupe. Cependant, elle n'est plus gaie, parce qu'elle est perdue au milieu des brumes. Elle pensait revenir à Paris en novembre, mais le 11, elle est toujours au Rocher. Elle espère Charles, enfin revenu de la guerre. Et Charles arrive. À Noël, le marquis est toujours au Rocher. La marquise, elle, essaye d'assister à tous les offices de Noël. Et puis le 11 janvier, elle se plaint de douleurs à la nuque, à l'épaule droite, au bras, incapable de remuer, en proie à des pensées vraiment de peur et à des fièvres violentes, elle hurle de douleur. Quand elle ne hurle pas, elle crie de fureur et d'indignation. Elle n'a jamais été malade de sa vie. Elle ne peut même pas écrire à sa fille tant elle souffre. C'est Charles qui s'en charge. Elle finit par guérir, ce sont finalement des rhumatismes. Et pendant ce temps-là, Françoise accouche prématurément d'un petit Jean-Baptiste. Et la marquise l'apprend bien après. Elle pense que l'enfant ne vivra pas. Eh bien si. Marie rentre à Paris le 8 avril. Nous allons faire une dernière pause musicale.
Vraiment, ma fille, je m'en vais bien vous parler encore de monsieur de Turenne. Madame Delbeuf, qui demeure pour quelques jours chez le cardinal de Bouillon, me pria hier de dîner avec eux deux pour parler de leur affliction. Madame de Lafayette y était. Nous fîmes bien précisément ce que nous avions résolu. Les yeux ne nous séchèrent pas. Elle avait un portrait divinement bien fait de ce héros et tout son train était arrivé à 11 heures. Tous ces pauvres gens étaient fondus en larmes et déjà tous habillés de deuil. Le premier qui put prononcer une parole répondit à nos tristes questions. Nous nous fîmes raconter sa mort. Il voulait se confesser le soir et en se cachotant, il avait donné les ordres pour le soir et devait communier le lendemain qui était le dimanche. Il croyait donner la bataille et monta à cheval à 2 heures le samedi après avoir mangé. Il avait bien des gens avec lui. Il les laissa tous à 30 pas de la hauteur où il voulait aller. Il dit au petit Delbeuf, Mon neveu, demeurez là, vous ne faites que tourner autour de moi, vous me feriez reconnaître. Il trouva M. d'Hamilton près de l'endroit où il allait, qui lui dit « Monsieur, venez par ici, on tirera où vous allez. »« Monsieur, lui dit-il, je m'y en vais. Je ne veux point du tout être tué aujourd'hui, cela sera le mieux du monde. » Il tournait son cheval, il aperçut Saint-Hilaire, qui lui dit, le chapeau à la main, « Jetez les yeux sur cette batterie que j'ai fait mettre là. » Il retourne deux pas, et sans être arrêté, il reçut le coup qui emporta le bras et la main qui tenait le chapeau de Saint-Hilaire et perça le corps après avoir fracassé le bras de ce héros. Ce gentilhomme le regardait toujours. Il ne le voit point tomber. Le cheval l'emporta où il avait laissé le petit Delbeuf. Il n'était point encore tombé, mais il était penché le nez sur l'arçon. Dans ce moment, le cheval s'arrête. Il tomba entre les bras de ses gens. Il ouvrit deux fois de grands yeux et la bouche, et puis demeura tranquille pour jamais. Songez qu'il était mort et qu'il avait une partie du cœur emportée. On crie, on pleure, M. d'Hamilton fait cesser ce bruit et ôter le petit Delbeuf qui était jeté sur ce corps qu'il ne voulait pas quitter et qui se pâmait de crier. On jette un manteau. On le porte dans une haie, on le garde à petit bruit. Un carrosse vient, on l'emporte dans sa tente. Ce fut là où M. de Lorge, M. de Roy et beaucoup d'autres pensèrent mourir de douleur. Mais il fallut se faire violence et songer aux grandes affaires qu'il avait sur les bras. On lui a fait un service militaire dans le camp, où les larmes et les cris faisait le véritable deuil. Tous les officiers, pourtant, avaient des écharpes de crêpe. Tous les tambours en étaient couverts, qui ne frappaient qu'un coup. Les piques traînantes et les mousquets renversés. Mais ces cris de toute une armée ne se peuvent pas représenter sans que l'on en soit ému.
Elle pense, la marquise, aller prendre les eaux à Vichy en se disant que sa fille pourrait bien faire l'autre moitié du chemin. La fille ne le fera pas. À Vichy, elle ne s'ennuie pas, beaucoup de ses connaissances s'y trouvent. La marquise se remet d'aplomb, ses articulations vont mieux, son moral aussi. Elle revient à Paris le 3 juillet. Elle attend sa fille pour l'hiver. Madame de Sévigné passe un été tout à fait agréable et la fille ne vient pas. Cette dernière, elle part avec son mari aux États qui se sont réunis à Lambesc. Elle prévoit la lettre qu'elle va recevoir et est tout étonnée finalement de ne lire aucun commentaire, aucune menace, aucun chantage. La marquise entretient sa fille de mondanité, de politique et de Charles. Du coup, Madame de Grignan court vers Paris. Quand la nouvelle arrive, le 25 novembre, où Madame de Sévigné est à Livry. Alors, cette dernière se permet un petit sourire satisfait. Elle a gagné en écrivant ce genre de lettres. Quand Françoise descend de carrosse, elle est stupéfaite. À la place d'une mère encore belle et jeune dont elle a le souvenir, que voit-elle donc? Eh bien, elle voit une quinquagénaire qui accuse son âge. La stupeur de la marquise n'est pas moindre. Françoise est pâle, défaite, maigre. Les journées passent et ça s'arrange pas. Quand François de Grignan arrive en février, il est frappé de l'aspect de sa femme. En fait, elle fait une dépression à cause de l'apparence de sa mère. Elle n'a pas faim parce que l'angoisse lui noue la gorge et elle est de mauvaise humeur parce qu'elle a constamment peur. Alors chacune finalement s'inquiète pour l'autre. Et entre elles deux, ce n'est plus de la tendresse, mais une sorte de rage. On dirait que ces deux femmes qui s'adorent se vouent une haine vigilante. Charles, qui a été blessé à la guerre, essaie de calmer les esprits. Monsieur de Grignan prend le taureau par les cornes et il décrète qu'il ramène sa femme en Provence. Charles repart à la guerre. Alors Françoise s'inquiète pour ces deux. Et puis elle s'inquiète aussi pour le petit dernier Jean-Baptiste, qui a 15 mois, ne relève pas seul la tête, ne s'assied pas, et finalement meurt le 26 juin. La marquise repart à Vichy, elle fait le voyage de retour avec allégresse, car sa fille va venir à Paris récupérer deux des filles de son mari. Elle prépare la maison, Charles sera au rez-de-chaussée. Oubliant que sa fille a un mari, elle installe deux chambres mitoyennes pour elle et pour sa fille. Les Grignan arrivent. Françoise n'a pas bonne mine. Le cousin Bussy dit que tout ça vient de la tête. Prise entre son mari, ses enfants et sa mère, la comtesse n'est pas capable de sérénité. François repart en Provence en février et ça aggrave évidemment la mélancolie de sa femme. Elle évite la compagnie de sa mère, elle devient jalouse des amis de celle-ci. Le 13 septembre, les Grignan retournent en Provence. Ils reviendront dans un an. La correspondance reprend. Maintenant qu'elle est loin, Françoise multiplie les protestations d'amour à sa mère. 1680, Marie va bien et retrouve même une seconde jeunesse. Et voilà que Charles, qu'elle voyait à la cour, décide que la Bretagne lui plaît beaucoup et qu'il va s'installer définitivement au Rocher. Alors la marquise est absolument furieuse. Pour elle, c'est une dégradation. Elle quitte Paris le 7 mai pour la Bretagne. Et elle ne réussit pas à ramener Charles à la cour. Et puis ce dernier décide de se marier. Avec qui ? Avec une demoiselle de Moron, ni belle, ni laide, mais avec un papa fort riche. La marquise est ravie lorsqu'elle voit sa belle-fille. Ça ne sera pas une rivale. Elle est humble, elle est discrète, elle essaie de ne point gêner. Un jour que Marie lui parle, finalement elle s'aperçoit que sa Buru est plus intelligente qu'elle ne le pensait. Et de plus, elle est très pieuse, et ça retentit sur son mari. Lors d'une promenade, Madame de Sévigné a un accident et elle se blesse à une jambe. Alors il s'ensuit une série d'ulcères, d'abcès, de plaies variqueuses. Au bout d'un an, elle revient à Paris, et sous l'influence de Charles et Marguerite, eh bien, elle a épuré sa foi et sa pratique. Elle est moins mondaine. Elle admet sa vieillesse, elle admet ses infirmités. Sa beauté se fane et elle ne s'en soucie plus. Elle continue ses lettres à tous ses proches. Ainsi, elle relate la mort du grand Condé à Chantilly le 11 décembre 1686. Son seul petit-fils, Louis Provence, 17 ans, part à la guerre et s'y conduit très bien. Il passe ses journées à la cour. Il ruine sa grand-mère en nourriture et malheureusement, comme beaucoup d'hommes de la famille, il joue beaucoup. Et il repart à l'armée. La marquise, alors, part pour la Bretagne. Elle s'y trouve bien finalement, mais devant les ennuis financiers de sa fille, elle décide de partir en Provence. Elle a 61 ans. 13 mois coulent dans un bonheur sans nuages. Tout le monde rentre à Paris. François doit recevoir l'ordre du Saint-Esprit. Mais il faut songer à marier Louis Provence. Hélas, les Grignan sont pratiquement ruinés. On cherche alors une demoiselle très riche, pas noble, ça se faisait beaucoup à l'époque, hein, dont le père voudrait bien qu'elle devienne noble, justement. Et on trouve. On trouve chez un fermier général. Fermier général, c'est celui qui collectait les impôts. Le mariage a lieu le 2 janvier 1695. C'est un mariage somptueux grâce à l'argent de la mariée. 6 avril 1696, Madame de Sévigné ne se sent pas bien. Le 11, elle réclame les derniers sacrements. Elle ne veut pas que sa fille assiste à sa mort. Donc, on cache à cette dernière l'état de sa mère. Mardi Saint, 17 avril, eh bien, la marquise s'éteint. C'est sa petite-fille Pauline qui détient les lettres de la grand-mère, qui par divers chemins nous parviendront. Au revoir à tous.